1, 2, 3.
Peux-tu me faire une voix plus
claire? Good morning, Vietnam!
Tonight we present a very warm little story called Kill with Time.
On a un peu dans le studio, on laisse voir, on lui met un casque, il parle dans le micro.
Il suffit que tu fermes ta gueule. À toi, je commence à m'entendre.
C'est cool, ça va arriver, les voisins.
Salut à tous, chères auditrices et chers auditeurs. Vous écoutez Les Décadrés sur PFM 99.9 et vous êtes en compagnie d'Ange.
Bonjour. Il m'a fait peur en fait avec son bonjour très sensuel et très perturbant. Excusez-moi. Mais et bonjour.
Vous êtes en compagnie d'Antoine.
Salut, salut.
Oh bah, ouais, merci.
Moi, c'est tout en simple.
On dirait Skyrock. Quoi.
Salut, salut, c'est Diffoul.
Et
on va appeler une auditrice qui se mettra à poil à la radio, c'est génial.
Et je suis Ben ou Benjamin. Et du coup...
pour les intimes.
Voilà, pour les intimes.
Pour les intimes.
Et on va commencer par...
les news de Ben.
Donc mes news, voilà. Les news du jour, bonjour. Les Defenders, ça vous dit quelque chose ou pas?
Oui.
Oui.
Ouais. Donc,
c'est les défenseurs de l'équipe de France.
Si je vous dis que c'est un groupe de super-héros composé par Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones et Iron Fist, est-ce que ça vous fait tilter dans la tête?
Ouais, il faut enlever Jessica Jones.
Non, elle y sera dedans.
J'ai vu que ça fait mal.
Chacun des héros cités ont eu ou vont avoir leur propre série sur Netflix.
Oui.
En stand-alone, comme on dit. Donc Daredevil, donc l'une des séries phares de Netflix, a même eu le droit à 2 saisons. Bon, eh bien, ces héros de la rue et du peuple s'occupant de l'obscurité de tous les jours. Donc là, c'est une attaque contre les Avengers qui se tapent des créatures de l'espace très fantaisistes ou se tapent directement sur la gueule parce qu'ils ont causé beaucoup de dégâts. Voir Civil War, le film.
Parce qu'ils se tapent autrement.
Non.
Je pensais que t'aimes nous parler d'une news avec une nouvelle parodie porno de film super-héroïque.
Les Defenders donc, vont se réunir et tous les mecs que j'ai cités vont se réunir et devenir les Defenders. Qui sera leur ennemi? C'est la question. On ne sait pas le nom du bad guy, mais on sait que ce sera une méchante, oui.
Ah,
une bad girl.
Et une grande, grande méchante donc, de cet univers audiovisuel qu'est le cinématique Marvel Universe, comprenant l'ensemble des films Marvel depuis Iron Man, donc 2008, jusqu'au récent Civil War, et aux séries télévisées Netflix et ABC, Agent of S.H.I.E.L.D.
Ouais.
Donc pour l'incarner, donc on ne sait pas le nom, hein, mais pour l'incarner, on ne pouvait pas espérer mieux, je pense, Sigourney Weaver.
Ah oui, Sigourney est de retour.
La seule, l'unique, la formidable, la charmante, la divine, Sigourney Weaver.
Oui, femme fatale.
Et je vous avouerai que j'ai plus hâte de la voir dans cette série que de la retrouver dans le Alien 2.5 de Neil Blomkamp, dont la production a été bloquée par Ridley Scott, afin qu'il puisse faire son film, donc le Alien Covenant, là, qui est arrivé, Prometheus 2. Et que Blomkamp n'avance pas tel un gamin gâté jouant des incohérences comme on joue mal de la flûte en 6e.
Ah, c'est ce qu'il a dit.
En fait, non, il a pas dit ça, mais il a dit qu'il voulait éviter les incohérences, du coup il a freiné le truc.
D'accord, donc en fait c'est la création de Ridley Scott qui passe en premier pour donner des pistes. Ouais, en fait du coup c'est une excuse pour remanier le scénario en fait.
Bah c'est surtout que Blomkamp lui il fait la suite d'Alien 2.
D'accord.
Alors il empêche, il supprime Alien 3 et Alien 4, on va pas se mentir.
Ouais.
Donc Scott veut.
Alors celui que Fincher était pas si terrible que ça.
En plus, donc Scott veut faire attention aux dégâts des incohérences.
D'accord.
Voilà. Donc deuxième news, on parlait de Netflix. Justement, des fans de Star Wars ont lancé une pétition demandant à Netflix de lancer une série se basant sur les événements de The Old Republic, le jeu vidéo.
Oui.
Donc, alors autant, je me dis que ça pourrait être génial, car c'est empli de récits géniaux. Faut voir les jeux Knights of the Old Republic ou encore The Old Republic, hein, ou même les romans. Et ça permettrait de sortir des histoires ou des films prévus, de s'écarter de ces films prévus par Lucasfilm, et assez basé sur la nostalgie, donc je pense au Réveil de la Force. Mais en même temps, je me dis que j'en ai un peu marre de la dictature des fans, ou du fanservice. Et du fanservice, et que d'un côté celui de la pétition des fans ou celui de Lucasfilm, bah je pense qu'il faut sortir de tout ça, arrêter de proposer ce qu'on attend, être un poil plus audacieux.
Bah, si on avait toujours écouté les fans, on n'aurait pas eu Ben Affleck dans Batman v Superman par exemple.
Mais c'est très vrai en
fait. Et on n'aurait pas eu
Heath Ledger en Joker.
On n'aurait pas eu Jared Leto en Joker. Moi ça m'aurait pas dérangé.
C'est un choix quand même.
C'est un choix, mais c'est pas aux fans de. Enfin, on fait un film pour des fans, ok, mais c'est pas les fans qui écrivent le film.
À la base, on fait un film de cinéma.
C'est ça.
Voilà. Donc après, on sait rien du futur film Han Solo, hein, mais. Bon, que ça se base sur l'amour du personnage ou une certaine nostalgie, le film devrait proposer de la nouveauté ou un minimum d'audace, car on a le duo Miller-Lord au scénario avec Lawrence Kasdan et à la réalisation. Et bah les gars, ils sont quand même à l'origine de 21 et 22 Jump Street.
C'est exact.
Et de Tempête de Bullet Giant 1 ou encore de The Lego Movie. C'est
ouais.
ça. La grande aventure. Donc, à voir.
Bientôt Lego Batman.
Oui.
C'est vrai,
bientôt
en février.
Batman, en février, ouais.
Vivement.
On peut dire aussi de même pour le futur Rogue One, donc dirigé par le très talentueux Gareth Edwards, épaulé par le non moins talentueux Tony Gilroy, qui est le scénariste de la saga Bourne, excepté le Best of Jason Bourne, donc le tout dernier volet, et qui est scénariste de Jeux de Pouvoir et réalisateur d'un Bourne, entre autres choses.
D'ailleurs, bande annonce de Rogue One qu'on peut retrouver sur Internet.
La toute dernière,
qui est très très belle.
Oui, très jolie. Donc j'ai envie de dire à Disney, arrêtez d'obéir à cette dictature des fans, ou même à plus, hein, et à la dictature du fanservice ou pop service. Et attention, là je me tourne vers Warner, où que tu sois, et son Suicide Squad tout en clip de musique pop et cool. Voilà, désolé.
Eh ben, j'espère que Warner t'écoute sur BFM 99.9.
Alors, on espère. On a appris jeudi que Bob Dylan avait reçu le prix Nobel de littérature.
Oui,
ah,
oui. Félicitations.
Félicitations Bob. Voilà.
Félicitations Bob.
Et bien,
autre nouvelle agréable pour son porte-monnaie et pour les fans de l'artiste, et pour les fans d'un autre artiste nommé Martin Scorsese, le documentaire No Direction Home Bob Dylan va ressortir en DVD Blu-ray dans une version deluxe pour son 10e anniversaire.
Pas que de bonnes nouvelles, hein, voilà. Jean.
Ben oui.
Donc le film qui date de 2005 retrace en deux parties l'enfance et les débuts folk de Dylan à New York, et puis la période rock de l'artiste partagée entre la grandeur mondiale de Dylan et la difficulté de son premier public à le suivre. Ouais. Donc pour en finir après avec un Bob Dylan complètement drogué qui connaîtra un accident de moto en 1966, et accident qui mettra à mal sa carrière et surtout sa relation avec le public.
Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone, and if your breath to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the time they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, 'cause the times, they are a-changing. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. 'Cause the battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing.
Bonsoir.
Bonsoir. Oui, donc c'est repris. J'avais pas fait gaffe.
Oui, bah c'est
que c'était la fin de la musique. Donc c'était The Times There Are Changing de Bob Dylan, vous l'avez reconnu.
Quel oui. bel
que vous avez même entendu de Watchmen, je suppose.
Oui, oui, oui.
Quel bel accent anglais.
Oui,
j'avoue. The Times is charging. Avec l'accent indien.
There Are Changing. Et du coup, on va passer à une chronique sur une série que j'apprécie beaucoup. Et qui va nous être présenté par Antoine.
Ouais, alors c'est vrai que ces derniers temps, c'est vrai que je suis assez branchouillé série, vous avez remarqué. Et d'ailleurs, bah, en fait, la semaine dernière, je m'étais attaqué un morceau de choix avec Dexter, qui est une série plutôt connue. Et du coup, je me suis dit quand même que la moindre des choses, et bah, c'était de vous présenter une série à la fois forte, sympathique, peu connue malgré tout, et qui a marqué le retour sur les petits écrans d'un super acteur. Vas-y, Benjamin, je te laisse dire.
Non, mais David Duchovny, mais en fait, j'allais te dire que c'est vrai qu'en France, c'est triste que ce soit pas plus connu.
Exactement, ça a bien fonctionné aux États-Unis, c'est programmé par NBC.
Ouais, une chaîne publique, du coup.
Chaîne publique, c'est ouais. Ça, ouais. Et, mais en France, voilà, c'est passé sur 13e rue, mm-hmm. la chaîne 13e rue. Et pour ceux qui ont Netflix, vous pouvez retrouver la saison 1 sur vos comptes Netflix. Alors, David Duchovny, hein, donc X-Files, Evolution, Californication, ou encore ma série préférée, Twin Peaks. L'acteur s'est enfilé et cumulé des rôles aussi différents les uns que les autres, et il nous le prouve encore aujourd'hui avec ce petit bijou de série qu'est Aquarius. Alors, Aquarius, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce
Moi, je sais pas.
Ça parle de quoi ? En gros, pour situer l'action, ça se passe en 1967 à Los Angeles et nous suivons le sergent Sam Odiak qui enquête sur la disparition d'une jeune adolescente dont le père est un imminent avocat au bras très très long. Et pour tenter de s'acquitter de cette tâche, il sera épaulé par un agent sous couverture du nom de Brian Schaaf.
Oh yeah.
Yeah. Yeah.
Yeah.
Yeah, baby. Une enquête qui va les mener sur les traces d'un certain Charles Manson. Et c'est donc dans un polar très 60s que nous découvrons un Duchovny marqué par la Seconde Guerre mondiale, l'alcoolisme.
C'est pas la guerre de Corée ?
Non, il a fait la Seconde Guerre
mondiale.
Ah, c'est
ça. Ouais.
Et justement, ça se passe pendant. L'action se déroule pendant la guerre du Vietnam. Voilà.
Ah, mais pas la Corée.
Pas la Corée.
Ok.
Et du coup, voilà, un personnage qui est marqué par la guerre, par l'alcoolisme, un divorce assez compliqué, et aussi un flic aux pratiques peu conventionnelles dans une époque marquée par la libération sexuelle, les groupes hippies, et non pas les groupes hippies, comme le dirait William Bill Truman 12 dans SS 117. Voilà, petite blague rigolote pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder OSS 117, Rieu ne répond plus, pour que vous situez la référence. Et donc, c'est donc dans un décor déjà bien planté que nous suivons Odiak vers les pistes de Manson, ex-tolar qui s'est reconvertu en une sorte de gourou et qui est prêt à tout en fait pour devenir une star du rock aussi grand que les Beatles, comme il le dit. Et cela dit, attention, la série ne propose pas un portrait hyper réaliste du personnage de Charles Manson. Cependant, on peut saluer également la performance de Gaetan Anthony, qui joue Charles Manson, donc, que vous allez peut-être reconnaître puisqu'il a également joué dans la série Game of Thrones,
oh.
Dans le rôle de Renly Baratheon. Voilà, bon, pour ceux qui ont vu Game of Thrones, tant mieux, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, bah tant pis, voilà.
Précision, on le voit que dans la saison 1.
Exactement, c'est à peu près ça.
Pour que vous vous retrouviez un peu dans tous les personnages, hein, surtout.
Alors, nous évoluons donc dans une période tendue dans l'histoire américaine, nous sommes en pleine guerre du Vietnam, il y a les tensions du racisme au sein des communautés noires de l'époque, et qui est une tension qui est quand même plus que palpable, et cependant, eh ben, le problème de la série, c'est seul peut-être son petit défaut, c'est que rien n'est attendu, est inattendu pardon, en termes de contexte. Je m'explique, parce que malgré les qualités certaines de la série, celle-ci souffre quand même un peu de son propre contexte, la chronologie avance un peu mollement. À certains moments. Bon, après, cela dit, ça reste avant tout une très bonne série parce que le créateur de la série, qui s'appelle John McNamara, propose avec une conviction quand même, un tableau d'une Amérique scindée en deux. D'un côté, t'as le modèle parfait de l'Américain conservateur et celui d'une Amérique jeune et anti-militaire de l'autre, avec les hippies notamment. Mmh. Et il est intéressant de voir comment McNamara en fait traite ce scindement, parce qu'il ne propose pas qu'une simple vision manichéenne
dualiste
de l'Amérique de cette époque, mais il préfère montrer, grâce au personnage par exemple de Ken Carm, qui est le père de la jeune fille disparue, l'avocat, mmh. mais également avec celui de Charles Manson, qui représente justement cette liberté juvénile, bon, bien sûr de manière extrême, hein, puisqu'on sait tous que Charles Manson est un vrai taré de psychopathe, hein, on va pas se mentir, mais en fait il montre que ces deux univers différents qui littéralement sont censés se combattre, en réalité s'influencent mutuellement en fait, le mal jaillit des deux. Et en bref, donc si vous n'avez jamais vu Aquarius, bah, déjà foncez dans votre frigo, prenez votre bière et installez-vous dans votre canapé afin de passer un moment savoureux grâce à cette série, en plus qui vaut le détour, je pense que Benjamin t'es d'accord avec moi.
Ouais.
Et dont les musiques sont juste jouissives. Et d'ailleurs, on vous en propose un petit extrait. Benjamin n'est pas du tout concentré.
J'ai perdu ma voix, en fait.
Et on va vous, donc, avant de discuter de la série, on va vous proposer un petit extrait sur PFM avec le morceau du groupe mythique The Who I Can See For Miles qui est dans la musique du film.
I know you deceive me, now here's a surprise. I know that you have, cause there's magic in my eyes.
can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. If you think that I don't know about the little tricks you play and never see you when deliberately you put them in my way, well, here's a poke at you. You're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles and miles. Advantage of my trust in you when I was so far away. I saw you holding lots of other guys and now you've got the nerve to say that you still want me. Well, that's as may be, but you gotta stand trial because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles.
Et oui, voilà, toujours sur PFM 99.9, notre petit ami Ange a fait une petite bourde de réglage de micro.
Non, en fait, non, pas du tout, c'est juste dans ton casque que tu t'entendais pas, alors que ça fonctionne très bien.
Ah d'accord, grave. Donc je me suis répété deux fois.
Il y avait un écho.
Voilà, c'est ça, écho. Alors voilà, petite précision aussi, je me suis trompé, ce n'est pas un film, c'est donc bien une série. Il y a une saison 2 disponible, apparemment une troisième saison se prépare. Ouais. Et savoir aussi que John McNamara a écrit, enfin a été scénariste de plusieurs épisodes sur la série Clark Kent et Lois Lane, les véritables aventures de Superman.
Lois et Clark, c'est pas ça?
Lois et Clark, pardon.
Il a été aussi donc c'est un ancien journaliste. Du coup, au niveau info, je trouve qu'il est plutôt, c'est plutôt rigoureux quand même.
Mais c'est quelque chose qui se ressent dans la série, hein, parce qu'il y a une noirceur qui est très très bien retranscrite de cette année-là. Il y a une tension, hein, notamment sur les communautés noires, les Black Panthers, tout ça, ouais. C'est quelque chose de très présent. Par exemple aussi le code que les flics doivent dire avant d'avoir arrêté chaque suspect, c'est quelque chose qui est seulement installé à l'époque et que les flics ont encore du mal. Et ça montre quand même comment les
une évolution
des mentalités en fait. Hein, c'est cette période-là en fait au final.
Sachant que mais t'as raison, mais je dirais même que c'est plus que bipolaire comme vision, dans le sens même Manson, il a beau se faire passer pour un hippie. Comment on pourrait dire ça ?
C'est un malfrat. Hein,
c'est un malfrat, c'est un mafieux qui a fait son petit gang, qui a fait sa secte même, on
oui,
pourrait dire.
Oui, mais c'est un psychopathe. Hein, oui, voilà. C'est clairement un psychopathe. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que la série propose quand même pas mal de matière sur le personnage. Après, ils sont pas, je pense pas que la série soit dans... Et en même temps, c'est ça qui est intéressant et en même temps qui est un peu dérangeant, c'est qu'on sent ce côté très reportage, très immersif. Dans le contexte de l'époque et en même temps sur le personnage de Manson qui a beau être vraiment incroyable, qui est très très bien écrit, on sent quand même qu'il n'y a pas ce souci non plus de se rapprocher des faits complètement réels. Ça s'inspire de faits réels.
Non, on voit qu'il joue beaucoup.
Il joue sur les nuances de la réalité de la fiction.
Samodia qui est quand même beaucoup plus, beaucoup plus crédible que Manson qui est un personnage de fiction. Et maintenant.
D'accord. Du coup, je vais essayer de regarder la série parce que moi, je ne la connais pas du tout.
moi, franchement, c'est une série que je conseille. Ouais. Ça a un peu de mal à se mettre en place, je trouve, au début. La chronologie qui n'est pas évidente.
La chronologie de quoi de la série ?
La chronologie de la série, ouais. Le contexte, enfin, ce que je disais justement tout à l'heure.
C'est pas la chronologie, c'est le contexte.
Ouais, le contexte, c'est pas. J'arrive pas à trouver le bon terme. Mais c'est le contexte historique qui n'est pas évident à situer, qui, des fois, ralentit un peu le rythme de l'action. Mais après, c'est très intéressant et c'est une série. Loin d'être con, c'est très intelligent ce qu'il a proposé là-dessus.
D'accord.
Donc, nous allons passer à Ange.
Oui.
Ange.
Eh, je suis là.
Oui.
Et pourtant, En fait, aujourd'hui, j'avais pas envie de faire une chronique. J'avais pas l'envie de faire quelque chose d'écrit, de compliqué. Non, pas de compliqué, en fait, parce que c'est pas compliqué d'écrire une chronique. Mais c'est juste, j'avais envie qu'on se rapproche les uns des autres, entre nous, chers décadrés.
Ouais, prépare-toi, ça, il commence à devenir Manson.
Et vous, chers auditeurs, qui, d'après le principe que j'aimerais bien mettre en place là maintenant, c'est de donner nos avis, en fait, de dire un peu ce qu'on regarde là, en ce moment, et de savoir un peu, donner vos avis sur ce que vous regardez, même présenter, donner envie aux gens de regarder des trucs, parce que donc là on parlerait pas forcément d'une seule chose quoi, parce que voilà, j'ai envie d'instaurer ça un peu dans les décadrés, quelquefois de temps en temps, parce que ça fait du bien pour l'avenir, parce que
l'avenir nous appartient, nous ferons ce qu'on a décidé, demain, dès aujourd'hui.
Tout à fait, donc dès aujourd'hui, nous mettons en place ceci.
Et Ange est très content parce qu'il a trouvé de quoi faire des petits jingles. Du coup, il a trouvé la première manière d'en placer un, hein, là, tout de suite.
Voilà. Tout à fait.
Ça me plaît beaucoup.
Voilà. Et un deuxième pour le plaisir. Donc voilà, donc moi, en ce moment, cette semaine, j'ai regardé beaucoup, beaucoup, beaucoup de films, on va dire. Je me suis fait un petit plaisir de regarder Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire,
ouais.
Qui est sauvé, on va dire, par Jim Carrey.
Ouais, clairement.
Parce qu'au niveau de la réalisation, bon, il y a des bons trucs sympas. Mais c'est un film à voir, hein. C'est un film familial à voir. Mais ne vous attendez pas à un grand film et une grande adaptation des bouquins.
Ah, mais
surtout.
Après c'est vrai que en termes de film familial, c'est très bien.
Ah oui, c'est un très bon film familial. Moi, c'est un très bon film familial. C'est juste qu'ils sont beaucoup, ils ont énormément raccourci. Ils ont réussi à faire trois tomes. Les quatre premiers tomes, je crois, dans le film, donc ça va très vite,
ouais,
mais en même temps, c'est quand même un bon film familial. Donc là, c'était pas vraiment le film dont je voulais vraiment vous parler ce soir, mais c'est juste, maintenant, c'est juste un film que j'ai regardé dans la semaine. Mais par contre, j'ai découvert Mascotte, qui est le nouveau film de Netflix, qui vient de sortir à peine je ne sais plus la date. Il est tout juste sorti, donc Mascotte, c'est un film sur les...
Mascottes.
Très bien, vous réagissez bien, je vois que vous êtes en forme ce soir. En fait, c'est un film, c'est une rencontre des mascottes dans le système américain. Donc vous savez que les mascottes sont aussi importantes que les équipes de football ou de baseball américaines. C'est un boulot à part entière. Donc là, on part à la rencontre sous forme d'interview au début de ces personnes qui veulent devenir et sont mascottes et surtout qui veulent participer au concours de la meilleure mascotte du monde.
Documentaire en fait.
En fait, même pas. C'est tourné un peu. Au début, on a l'impression que ça devient un documentaire parce qu'on entend les personnes qui parlent. De leur boulot, de leur taf de mascotte, on les voit directement en système d'interview, et pourtant à certains moments on voit des moments de leur vie naturellement, comme s'il n'y avait pas de caméra.
C'est un faux documentaire.
Oui, voilà, c'est une comédie.
Un peu dans le même délire que Modern Family en fait.
Ouais, je pense que c'est ça.
Oui, c'est exactement le même principe.
D'accord, ok.
C'est exactement pareil. Et c'est une bonne comédie aussi familiale à voir. Certes, j'étais un peu déçu par le fait de montrer les personnages comme étant des fous. Enfin, c'est des gars totalement à côté de la plaque en fait.
Ouais.
C'est le stéréotype même des gars qui font de la mascotte. Quand tu vois une mascotte en train de danser, t'as à dire que le gars qui est à l'intérieur, il est pas net dans sa tête. Ben, ils ont fait exactement ça. Il y a un couple qui font à deux une mascotte, ils s'engueulent tout le temps. Donc leur mascotte, c'est des mascottes qui s'engueulent tout le temps. Il y a un plombier qui est un peu zinzin. Il y a un nain, c'est un verre. Enfin voilà, il y a plein de trucs personnages comme ça qui sont totalement à côté de leur pompe et qui, donc c'est le stéréotype même, il n'y a pas de personnage vraiment bien centré sur sa tête, mais ça ne gâche pas quand même l'humour de ce film qui est quand même pas mal et que je vous conseille de voir si vous avez Netflix, parce que je sais pas s'il sortira sur une autre plateforme pour le moment.
D'accord.
Voilà, voilà. Et vous les gars?
Alors, moi perso en ce moment je suis c'est vrai, comme je disais, je suis assez branché série en ce moment. J'ai pas regardé de films, j'ai regardé des films ces deux dernières semaines, mais aucun qui m'a vraiment marqué. Mais en ce moment, je suis très branché série et par exemple, en ce moment, je suis à fond sur Luke Cage, tu vois.
Ah ouais,
j'ai vu que le premier épisode.
La série Luke Cage, je trouve que ça... Enfin, je trouve la réelle... Déjà, le générique de début, je le trouve juste...
incroyable.
Incroyable. Il est encore mieux que celui de Daredevil, presque.
Ah, clairement, il est au-dessus.
Il est incroyable.
La musique, même.
La musique est ouf. Hein. La série est très riche. Hein. Ça parle vraiment de... Justement, il y a ce côté social qui manque à la dimension... Enfin, cette dimension sociale que n'ont pas certains, beaucoup de super-héros. Par exemple, Daredevil.
Daredevil, il l'a quand même.
Il l'a quand même, ouais.
En tant qu'avocat.
En tant qu'avocat de la défense, c'est vrai.
Ouais.
Mais il le représente moins que Luke Cage, en fait, qui est un peu la parole. Enfin, c'est un peu un porte-voix, c'est un peu un hygiaphone, ce mec. C'est un personnage très intéressant et j'aime beaucoup l'acteur qui le joue aussi.
Luke Cage, quand il a été créé, c'était pour donner un héros de couleur, voilà, à l'époque.
C'est le mégaphone du ghetto, on va dire.
C'est ça.
Mais c'était le héros d'Harlem et c'était aussi pour profiter, en même temps s'intégrer dans la vague de ce qu'on appelle la blaxploitation. Avec des films où on avait justement des héros de couleur, quoi. Et ça parlait de cette société, ça parlait d'un quartier qui était assez oublié. Et c'est intéressant, je trouve.
Ouais, bah après, ce que je trouve bien au moins dans Luke Cage, c'est qu'il n'y a pas de souci à avoir, on ne pourra pas tomber dans le cliché du. Comme dans les films hollywoodiens où c'est le noir qui meurt en premier.
Ah, ouais, ça c'est vrai, on ne pourra pas tomber dedans.
Non, mais après, le film, il est très riche. Enfin,
La série
est très riche, en informations. Ouais. Par contre, il faut connaître un petit peu l'univers de Marvel. Quand
je trouve pas.
Ah si, quand même, il faut avoir vu quand même les Avengers.
Non.
Si, Benjamin, je suis désolé.
Non, mais ils en parlent une seule fois.
Non, ils en parlent pas qu'une seule fois, ils en parlent plusieurs fois de la bataille de New York. Il y a
dès le premier épisode.
Ils en parlent.
Ils l'évoquent.
Oui, non, mais ils l'évoquent, mais c'est évoqué plusieurs fois dans la série. Et le fait est que.
Ils l'évoquent, tu le vois carrément, ils en parlent carrément. Tu vois même les infos. Les trucs, tu vois les infos que ça passe.
C'est impossible parce que ça. Même si ça peut passer aux infos, la série elle se déroule pendant Daredevil saison 2, donc c'est pas pendant Avengers, désolé.
Attention, j'ai jamais dit que c'était pendant Avengers. Je dis en fait, ils font énormément référence à la bataille de New York avec les extraterrestres. C'est très évoqué. Et d'ailleurs, il y a des petites choses qui rentrent, enfin qui se croisent en fait. Ils parlent aussi un peu de Daredevil, de ce qui se passe à Hell's Kitchen. Après, c'est pas nécessaire de voir l'ensemble de l'univers Marvel pour comprendre, heureusement. Mais après, je pense que c'est conseillé si on veut capter quelques subtilités en fait.
Disons que si vous voulez vous taper tout l'univers et qu'après vous voulez de la surprise, regardez les séries Netflix.
Il faut au moins suivre en fait Daredevil, Jessica Jones. J'ai regardé que le premier épisode, c'est vraiment. Faudrait vraiment que j'accroche encore.
Moi j'ai pas du tout accroché de Jessica Jones. C'est pas inintéressant, mais ça m'a pas transcendé quoi.
Ouais.
Bah merci beaucoup.
Voilà, bah c'était une chouette discussion. Ah aussi, par commentaire, même sur Mixcloud, Facebook ou quoi. Même par mail à PFM, si vous pouvez nous dire, vous, ce que vous regardez.
Ce que vous regardez.
On pourrait les chroniquer.
C'est le principe.
Par plaisir.
Exactement, les films, les séries, des jeux vidéo aussi.
Ouais, on parle de tout.
Autour
de l'image.
Si vous voulez qu'on planche sur un sujet, une série ou un film, n'hésitez pas à nous le dire.
Donc là, une note mystère pour terminer l'émission.
Oh, une note mystère de la part de
Alors,
Ben.
Alors, quel film pourrait arriver si je vous dis Willow? Est-ce que vous en souvenez?
Bah oui.
C'est la meuf qui joue dans Buffy contre les vampires.
Non.
Mais non, c'est le petit nain qui a joué un Ewok dans Star Wars.
C'est Warwick Davis qui incarne un Eldwyn, donc c'est une des personnes de petite taille.
Un magicien.
Qui veut devenir magicien.
Bon,
et qui va devoir affronter la reine Bave Morda, il me semble que c'est. La méchante, dans un film de Ron Howard. Écrit et produit par George Lucas et Lucasfilm à l'époque, avec Val Kilmer.
Mais t'as jamais vu ce
film? Non, du tout.
Val Kilmer, le secondé, était génial. C'était un Jordan Solo, un sidekick. Et bah du coup, devinez quoi, il y aurait peut-être une suite réalisée par Ron Howard qui voudrait revenir dans l'univers, il l'a dit, et avec les interprètes principaux.
Ça serait génial.
Donc on vous laisse sur la musique de James Horner, le premier thème.
Et à bientôt.
On vous dit à bientôt.
Et à la semaine prochaine.
À très vite.